Café Campus, 12h-14h, Mélissa Mourou.
Il est midi et vous écoutez Café Campus, une émission cette fois-ci spéciale rentrée comme toute la semaine, puisqu'on est en direct cette fois-ci du campus de Talence avec tout de suite notre premier invité Thibaut de l'Astragale et la Fourmi. Bonjour Thibaut, comment ça va aujourd'hui ?
Eh bien, ravi d'être ici, ravi de montrer un petit peu ce qu'on fait au jardin partagé et à l'association en général. Voilà. Donc on a une triptyque avec. Donc des conférences, une activité des sorties naturalistes en fait. On va découvrir un petit peu la biodiversité locale. Et on propose d'investir un jardin partagé qui se trouve sur le campus Sciences et Technologies, sur le domaine du Haut Carré, donc là où se situe l'administration de l'Université de Bordeaux. Et au nord-ouest, on a un petit jardin partagé, un bel espace où il y a déjà des arbres fruitiers. On propose de cultiver... des parcelles soit individuelles soit collectives et on essaye de privilégier des pratiques durables et raisonnées du jardinage en respectant les cycles naturels et la biodiversité.
Alors ça fait combien d'années qu'il existe ce jardin partagé et c'est né de quelle initiative ?
Alors je crois qu'il date de 2013. L'association est un peu plus vieille que ça. L'association a été créée en 1996 si je ne dis pas de bêtises. Et donc finalement le jardin partagé est assez récent et l'Université de Bordeaux a décidé de confier ce terrain-là à l'Astragale et la Fourmi parce que l'association était dans une démarche en fait d'expérimentation de la permaculture. Donc la permaculture c'est une sorte de grosse boîte à outils en fait dont le principal objectif est de cultiver en cédant du vivant au lieu de lutter contre lui, on va dire ça comme ça, voilà. Si on peut résumer en gros. Et en gros, on va essayer de respecter les cycles naturels de l'eau, les cycles naturels du phosphore, de l'azote. Donc on ne met pas d'engrais chimiques, par exemple. Donc nous, on essaie vraiment d'enrichir le terrain en préservant le sol, en ayant des techniques de préservation du vivant en général. On a par exemple une mare à tritons qu'on va essayer de rénover cette année. Donc c'est un gros projet pour cette année. Avant, je pense que vers novembre, en novembre, on va mettre ça en place. On va essayer d'apporter vraiment une zone humide qui va enrichir le jardin par ses interactions. Par exemple, les libellules vont manger les moustiques, les tritons vont pouvoir manger les limaces qui peuvent embêter certaines laitues au jardin. Donc tous les jardiniers connaissent le problème des limaces. Mais on va essayer en fait de cultiver, de jardiner avec tout ça. Les limaces ont aussi leurs avantages, par exemple. Donc on considère qu'il n'y a pas besoin, par exemple, de mettre des pilules bleues pour aller tuer les escargots, les limaces. On va juste d'abord observer comment fonctionne un jardin, comment fonctionne le vivant, et on va ensuite s'ajuster en modifiant, en faisant du biocontrôle en fait, en intégrant certaines espèces, en ayant certaines pratiques de jardinage qui permettent de jardiner avec le vivant.
Est-ce que c'est un jardin uniquement ouvert aux étudiants ?
Alors non, c'est ouvert aux habitants du quartier en 2019, et donc on est vraiment très content en fait de cette association avec les habitants du quartier qui viennent régulièrement sur le jardin. Comme il y en a qui sont vraiment riverains en fait, qui habitent dans la résistance juste à côté du jardin, ça permet d'avoir un socle en fait et de cultiver ce lien intergénérationnel qui peut s'effriter un petit peu en ce moment, donc c'est hyper important. Là il n'y a pas plus tard que deux jours, une des jardinières m'a gentiment offert de la verveine pour ma tisane du soir, après avoir jardiné au jardin toute la journée. Donc c'est des petites des délicates attentions comme ça, et puis quelques plants qui sont partagés, des graines, des bons moments qui sont passés. On a régulièrement des petites journées paella, choses comme ça. Donc c'est très sympa d'avoir ce côté à la fois étudiant et ouverture sur les habitants du quartier.
Donc tout le monde peut venir se servir en fruits, en légumes, mais en échange, il faut quand même mettre la main à la pâte.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut au moins adhérer à l'association et participer aux frais de gestion du jardin. C'est-à-dire que on a du matériel, on prête les outils, c'est-à-dire qu'on peut venir sans rien. Tous les outils nécessaires sont au jardin. On a investi par exemple dans des récupérateurs d'eau pluviale pour gagner en autonomie au jardin sur l'eau. Je pense qu'on sait tous qu'il y a des vrais problèmes de pénurie d'eau en ce moment en France qui vont malheureusement s'accroître dans les temps à venir. Et donc on essaye vraiment d'avoir cette démarche la plus autonome possible en eau, et donc ça coûte de l'argent d'investir dans des récupérateurs d'eau pluviale, dans des tuyaux, dans des gouttières, des systèmes de goutte à goutte. Voilà, on a aussi des systèmes d'OIA que vous pourrez regarder sur notre stand pour gagner en autonomie. Et donc voilà, on trouve ça normal en fait que les gens participent aussi à ces investissements-là, même si une somme modique, hein, c'est juste 5 euros pour la participation de frais au jardin. Donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ça reste une adhésion étudiante, c'est symbolique si vous voulez. Voilà.
Tout à l'heure, tu nous parlais de sorties naturalistes que vous organisez. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
oui.
tout ça?
Alors, il faut savoir que l'association L'Astragale et la Fourmi est une association à vocation naturaliste à la base. Et donc, elle s'est donnée pour mission en fait, de faire découvrir la biodiversité locale aux étudiants de Bordeaux. Mais pas que, on est vraiment une association qui est ouverte à tous. Donc là, les habitants du quartier peuvent aussi participer à ces excursions. On fait par exemple des visites de la réserve naturelle du Teche, de Bruges. On essaye d'aller dans différentes réserves ou tout simplement à côté, juste sur le domaine du Haut-Carré. On a fait l'an dernier par exemple une visite avec une écologue qui est diplômée du Master 2 de Bordeaux. Donc vraiment, on ne peut pas plus local sur l'intervenance, mais qui nous a expliqué la richesse de ce jardin-là, avec certaines orchidées qui sont très rares, des colchiques, un roulement entre... c'est vraiment un jardin qui recèle une biodiversité insoupçonnée, avec un côté prairie, un côté forêt, avec des arbres qui sont très vieux. Et en fait, et aussi une biodiversité, une faune qui est assez remarquable pour un parc en ville. Donc voilà, le but c'est de découvrir en fait ces refuges, ces espaces de biodiversité, de comprendre comment ils fonctionnent pour donner envie aussi aux étudiants de s'y intéresser, de les protéger et d'agir pour justement faire en sorte de favoriser l'émergence de ces lieux.
Est-ce que certaines visites sont plus axées parfois sur, par exemple, sur l'étude des oiseaux, l'étude des insectes ou l'étude de la flore, ou c'est vraiment en général par zone ?
Non, effectivement, quand on, par exemple, la visite ornithologique, de la réserve ornithologique du Teche, ça va être plus une sortie à thématique sur les oiseaux.
Donc, forcément.
C'est un lieu de passage, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous conseille. C'est un lieu de passage de beaucoup d'oiseaux migrateurs. Et donc, il y a vraiment une très grande richesse d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux sur cette réserve-là. Un des autres projets de l'association, c'est le développement d'une colonie de fourmis. Donc là, par exemple, ça va être... c'est pas vraiment une sortie, mais en fait, on va axer une certaine partie de l'association, une certaine partie de notre temps sur justement la découverte et la sensibilisation aux fourmis. Par exemple, au jardin, on a eu récemment des fourmis qui ont créé un élevage de pucerons. Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais les fourmis en fait ont créé de l'agriculture bien avant nous. Et elles cultivent des pucerons pour leur miel, une espèce de substance en fait que les pucerons rejettent et dont elles se nourrissent. Et donc on peut trouver en fait des élevages de pucerons massifs au jardin. Et c'est un bio-indicateur, c'est un indicateur qui a les fourmis au jardin. Et il y a une étude assez récente qui est parue en août qui montre qu'en fait les fourmis, ça a aussi un intérêt pour le jardin. C'est pas uniquement néfaste et il y a plein de... Ça régule en fait des populations de ravageurs. Et donc avoir des fourmis au jardin, ça peut être une excellente chose. On essaie de cultiver justement avec le vivant, s'intéresser à la manière dont ils fonctionnent pour comprendre s'il faut les enlever ou pas et comment est-ce qu'on peut réguler ces espèces-là.
Pour ces sorties-là, est-ce que c'est comme le jardin partagé, c'est ouvert à tous les membres, qu'ils soient étudiants ou non, ou là,
c'est...
D'accord.
C'est ouvert à tous, sans limite d'âge.
Et toi, Thibaut, est-ce qu'il y a un domaine que tu affectionnes plus qu'un autre ?
Alors moi, je me suis intéressé très tardivement au jardinage. Et là, je me suis vraiment pris de passion pour l'agroécologie, c'est-à-dire la manière de cultiver avec le vivant. Donc de respecter les cycles naturels, par exemple de pailler le sol, de jamais laisser le sol à nu pour conserver toute la vie. Il faut savoir qu'en fait dans une cuillère à café de terre, il y a autant d'individus que d'êtres humains sur terre. Donc il y a vraiment une quantité de bactéries, de protistes, de virus, de vers de terre, d'insectes qui est foisonnante. Et en fait tout ce travail-là, tous ces organismes-là travaillent de concert pour apporter de la vie. Donc quand on comprend en fait comment fonctionne le sol, on arrive à avoir de l'abondance sans fournir beaucoup d'efforts. Il y a plein de domaines, en fait, de solutions, même pour lutter contre le climat, pour lutter contre l'effondrement du vivant, pour lutter contre la pénurie d'eau, qui existent. Et l'agroécologie en fait partie. L'agroécologie, c'est vraiment... c'est un des aspects de la permaculture. Voilà. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez. L'agroécologie, ça fait partie de la permaculture. Et au sein de la permaculture, il y a diverses pratiques dont l'agroécologie fait partie. On peut parler aussi de l'agroforesterie, de l'agriculture synthropique, qui s'intéresse à la manière dont l'homme va venir intervenir sur le vivant pour apporter de l'abondance très très rapidement et générer automatiquement, par exemple, des mini-cycles de l'eau. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de solutions qui sont très peu connues, très peu expérimentées et qui sont très prometteuses.
Si on est intéressé pour en savoir plus et participer à la vie de ce jardin, comment on fait ?
Alors je vous invite à venir sur notre stand, aller flasher tous nos QR codes. On a un site Eloasso, on a un site Instagram, Facebook, on a un Discord qui nous sert aussi pas mal pour discuter majoritairement entre jeunes, on va dire. Pour les seniors, pour les habitants du quartier, on est plus sur un groupe WhatsApp, voilà, sur lequel on va communiquer exclusivement sur le jardin, pour les différentes activités au jardin, les chantiers participatifs. Par exemple, on a un très gros projet de rénovation de notre Mara Triton. On va avoir besoin de pas mal de monde, voilà, de gens qui sont motivés sur ce projet-là. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Mais merci beaucoup Thibaut.
Avec plaisir.
On poursuit notre programme pour ce Café Campus en direct du campus de Talence. C'est au tour d'Alan de l'association M-Tech d'être à nos micros. Salut Alan.
Et salut à vous. Alors c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme tu l'as dit, ouais, je viens de l'asso M-Tech. Donc on est une asso pluridisciplinaire du campus de Talence, Sciences et Technologies. En quoi ça consiste M-Tech, donc ce serait principalement d'initier les étudiants, la vie étudiante bordelaise, donc ce soit festivement parlant, de manière festive, et aussi d'un point de vue culturel. Donc vu qu'on est basé au campus Sciences et Technologies, il nous arrive de faire des conférences sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc dernièrement, on avait fait une conférence sur comment repenser l'eau pour les années à venir. À part ça, on organise aussi un festival juste ici, donc sur le campus Sciences et Technologies à Talence, donc à l'arrêt Bethany, qui s'appelle le May Day, qui normalement se déroule en mai. Et à cause du Covid, l'an dernier, ça s'est déroulé en octobre, du coup. Et il a réuni, donc, l'an dernier, 6500 personnes, il me semble, sur 2 jours. Et voilà, donc c'est assez sympa. Il y a des artistes qui passent et il y a aussi un village où il y a des différentes thématiques qui sont abordées, notamment sur l'écologie. Donc voilà. Et principalement, on fait vivre... Le campus à travers des soirées étudiantes tout au long de l'année. Et voilà, donc là, forcément, début de l'année, qui dit début de l'année dit rentrée. Et donc là, on fait le week-end d'intégration. Donc voilà, et ça va être sympa comme tous les ans. Que de la bonne humeur.
Donc
voilà.
Festif et toujours cette volonté d'intégrer les étudiants du campus de Talence.
Ouais.
Tu as parlé donc des conférences tout à l'heure.
Oui.
Qui les anime généralement ? Est-ce que c'est des membres de l'association ou vous avez des intervenants extérieurs ?
Alors du coup, on a des intervenants extérieurs. Donc là, dernièrement, c'était 2 professeurs, du coup. Donc on en profite justement d'être sur le campus Sciences et Techno pour justement pouvoir aborder des sujets que nos professeurs, au final, abordent toute l'année, tout au long de l'année. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et puis... étant donné qu'on est assez pluridisciplinaire, qu'on ne dépend pas d'une filière, donc qu'on soit, moi par exemple, je suis un master de mathématiques, et d'autres dans l'association sont en biologie, en mécanique ou des trucs comme ça. Et donc, ce qui nous offre aussi le plaisir de pouvoir découvrir. D'autres matières que nous ne connaissons pas. Donc là, par exemple, pour l'eau, il me semble que forcément, c'était des profs de biologie qui a été intervenu. Donc moi, j'ai arrêté la bio en seconde, donc voilà, c'était assez intéressant pour moi. Et puis voilà.
Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie d'étudiant, de contribuer à la vie d'une association ?
Alors, du coup, moi, j'ai intégré cette année, donc, enfin, l'an dernier, du coup, scolairement parlant. Pour moi, j'ai découvert ça donc, grâce au My Day. J'étais bénévole, parce que tous les ans, du coup, forcément, on cherche des bénévoles étudiants pour tenir le bar ou gérer des portes de sécurité, entre guillemets. Et donc, j'avais fait ça et j'ai découvert quelque chose qui m'a bien plu, l'ambiance, cette cohésion au sein de l'associatif. Et puis, oui, le fait de faire vivre la vie étudiante du campus, c'est quand même c'est assez sympa, on va pas se cacher. Et puis, c'était pour ça. Et donc là, j'ai continué et je continuerai aussi l'année prochaine. Voilà.
Donc là, on peut récapituler. Les prochains gros événements à venir, c'est le week-end d'intégration.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre ensuite ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc forcément, on espère pouvoir faire le May Day du coup en mai prochain. Donc gros event à organiser. Et puis sinon on a une soirée donc post-away pour établir le vainqueur de la way qu'on fait en équipe du coup. C'est plusieurs équipes qui s'affrontent. Et donc après ça, normalement on a prévu de faire une soirée étudiante en bar ou pas, toutes les 2 à 3 semaines. Donc voilà. Et en général, pour avoir des infos, c'est sur notre Instagram, donc MTech Bordeaux, BDX, M-Tech-Bordeaux, BDX. Donc sur Instagram ou sinon en stand directement à 22. Voilà.
Et si on souhaite rejoindre MTech, on fait comment ? Est-ce que vous recrutez encore des bénévoles, des membres ?
Alors bien sûr, ouais, on est ouvert à que des personnes s'initient beaucoup plus et au sein du bureau même de l'association, des membres actifs. Donc, on vous accueille avec grand plaisir. Comme moi, j'ai été accueilli du coup l'an dernier. Et oui, donc pour ça, juste un message sur Instagram ou venir nous voir tout simplement. Nous poser des questions, faut pas hésiter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en direct. C'est toujours un plaisir de répondre aux étudiants. Donc voilà.
Merci beaucoup Alan, bonne rentrée et puis bonne fête, bonne sortie culturelle, bonne conférence.
Merci à vous.
On poursuit le tour des associations à présent avec Eturécup et Benjamin qui est là pour représenter Eturécup. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui ?
Très très bien, il y a du monde. On a fait tout le pain perdu qu'on avait amené, donc ça marche bien.
Alors première question, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est Eturécup ?
À la base, c'est une ressourcerie qui a été créée sur le campus pour aider les étudiants à s'équiper à moindre coût. Ça a tellement bien marché que du coup on a essayé de développer un peu le projet. On a monté un atelier participatif de mécanique vélo en premier, comme il y a pas mal d'étudiants qui se déplacent en vélo sur le campus, ça leur permet de faire l'entretien, de réparer ou de s'acheter un vélo d'occasion pour vraiment pas cher. Et le vélo s'est tellement bien développé qu'on a monté plusieurs maisons du vélo depuis les 6 ans que l'association existe. Donc maintenant, on a une maison du vélo sur le campus et on en a une à Gradignan et une à Pessac Centre. Donc avec des ateliers vélo tous les jours de la semaine, du mardi au samedi. Voilà. Et pour développer aussi les ateliers participatifs, on a développé des ateliers de menuiserie. Donc on a un atelier bois à côté de la ressourcerie où là on peut réparer ses meubles ou se fabriquer des meubles en bois. On a un atelier couture aussi, un atelier qu'on appelle zéro déchet où là on apprend aux gens à faire des produits ménagers ou des produits de beauté avec des produits qu'ils ont chez eux, hyper simplement. Et puis on fait aussi des ateliers électroniques et informatiques, donc réparation d'ordinateurs, réparation de petits électroménagers, tout ça. Vraiment l'idée c'est d'apprendre aux gens à réparer leurs objets plutôt que de jeter et d'acheter du neuf.
Et qu'est-ce qui explique un tel succès que vous ayez d'aussi nombreuses sollicitations ?
Je pense que c'est un peu la mouvance aujourd'hui. Les gens en ont marre de dépenser leur argent dans des produits qui vont pas durer très longtemps. Les gens, je pense qu'il y a aussi une satisfaction de réparer. Je pense que c'est quelque chose qui est très très apprécié, ça, d'apprendre à réparer quelque chose, d'apprendre à utiliser des outils. C'est un peu quelque chose que les gens avaient perdu. Donc c'est un peu l'esprit de l'assaut. Et puis la ressourcerie, on peut trouver vraiment de tout dans notre ressourcerie, que ce soit des fringues, que ce soit de la vaisselle, que ce soit de la déco, ça peut être... On a beaucoup de tout ce qui est sono, enfin, on peut trouver des amplis, des enceintes, des CD, des vinyles, des cassettes, on a des livres, on a tout ça à très petit prix. On a une grosse zone de gratuité où les gens viennent se servir tous les jours, on a beaucoup de choses qui sont à prix libre. Donc ça permet de s'équiper vraiment, vraiment pour pas cher, quoi.
Les étudiants, en ce moment, c'est compliqué pour eux. Il y a beaucoup d'inflation. C'est difficile comme jamais pour se loger. Mmh. Donc ils ont un budget qui est moindre par rapport encore aux autres années, alors que c'était déjà pas top. Est-ce que tu récupères, vous contribuez à rendre un petit peu les choses plus faciles pour les étudiants?
Eh bien, nous, déjà, tu vois, tous les ans, on se pose la question, rien que le prix de l'adhésion à l'asso. Donc l'adhésion, c'est une adhésion annuelle. Et je pense que tu trouveras aucune asso en Gironde qui fait une adhésion annuelle à 3 euros et qui te donne accès à tout ça. Donc on se bat chaque année pour garder ce prix-là au niveau de l'adhésion. Donc pour 3 euros, tu as accès à la ressourcerie et à tous les ateliers participatifs là, que j'ai parlé juste avant. Donc je pense que ça aide pas mal. Les étudiants pour ça. Puis après, le fait de garder toujours, comme je disais, des choses à prix libre ou des choses gratuites, ça aide énormément.
Est-ce qu'on peut parler un peu de l'équipe qui constitue le staff d'EthuRecup? Qui sont-ils? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des bricoleurs en herbe?
Alors effectivement, souvent, moi quand je suis arrivé à EthuRecup, j'étais principalement sur la maison du vélo. On s'est pas mal battu et on s'est pas mal démené pour faire en sorte d'offrir un service de qualité. Moi, j'ai travaillé dans le monde du vélo, dans des entreprises privées pendant plus de 15 ans. Et du coup, quand je suis arrivé dans le monde associatif, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est une asso qu'on fait n'importe quoi et que le service, il est médiocre et que les gens, ils viennent, ils pensent qu'ils vont faire du bricolage. On offre un service quand même de bonne qualité. Et puis, les gens qui sont là sont formés. Par exemple, à la maison du vélo, on a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider pour aider les autres à réparer leur vélo. Et régulièrement, chaque année, on ferme l'atelier pendant une journée ou deux pour les former vraiment sur la mécanique vélo et qu'eux-mêmes soient meilleurs en réparation et qu'ils puissent faire une meilleure prestation avec les adhérents. Donc ouais, on essaye d'être bien. Et après, au niveau de l'asso, au niveau des salariés, aujourd'hui on est 9 salariés dans l'association. Alors moi, j'y suis plus, maintenant je suis bénévole, mais il y a 9 salariés pour gérer la ressourcerie et la maison du vélo, dont 4 personnes à temps plein sur la maison du vélo et 5 personnes qui sont plus à la ressourcerie, en plus des services civiques, des stagiaires, tout ça, donc ça bouge beaucoup. Voilà.
Donc la ressourcerie, elle se trouve à l'espace campus.
Exactement.
Derrière le campus de Montaigne.
Exactement.
Donc des locaux relativement nouveaux.
Oui, c'est ça.
Ça vous a permis de vous développer, j'imagine.
Alors c'est vrai qu'au début, la maison du vélo et la ressourcerie, c'était tout au même endroit. Donc on se marchait un peu dessus. Là, ça nous a permis d'agrandir la maison du vélo et puis de déporter la ressourcerie. Donc c'est 18 avenue de Bardanac, donc le gros bâtiment blanc là derrière les Stapes et puis derrière village 6 ou 5 si je me trompe. Alors le problème, c'est que oui, le bâtiment est tout neuf, ça, on a beaucoup d'espace, mais en fait ça, on a tellement énormément de demandes, énormément d'apports journaliers pour la ressourcerie que malgré le grand espace qu'on a, on commence à être déjà serré. Donc on a dû se faire livrer des conteneurs pour stocker des meubles et tout ça, pour faire une zone tampon en fait. Voilà, mais ça marche énormément. Tous les ans, on a des nouveaux adhérents, tous les nouveaux étudiants qui arrivent deviennent adhérents à l'asso. Et je crois qu'au total, on a dans les 3000 adhérents qui tourne voilà, régulièrement chaque année. Donc il faut gérer tout ce monde. Et même si on est 9 salariés, c'est presque pas suffisant. Donc voilà, on a besoin d'espace et voilà, ça sera un peu mieux.
Est-ce que malgré ça, il faut arrêter de donner à la ressourcerie ?
Il faut pas arrêter de donner. D'autant plus que les gens savent maintenant que les gens nous donnent des choses de qualité. Et c'est ça qui est chouette. C'est vrai que des fois, des gens peuvent nous confondre avec la déchetterie. Les gens ont un truc cassé, ils nous l'amènent. Non, l'idée, c'est vraiment de nous donner des choses en bon état pour que ça puisse resservir à des gens qui ont pas les moyens de s'en acheter. Donc, non, faut pas hésiter à nous amener, que ce soit des fringues, que ce soit des meubles, que ce soit de l'électroménager. Tous les ans, les étudiants, ils en ont besoin. Et petite parenthèse, ce n'est pas réservé qu'aux étudiants, même si on parle beaucoup d'eux. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a tellement de stocks que n'importe qui peut venir, être adhérent et puis bénéficier des services qu'on donne. Voilà.
Mélissa, qui est ici présente, a un petit problème de freinage sur son vélo.
Ouais.
Est-ce que tu peux évoquer ça, Mélissa ?
Alors oui, tout à fait. J'ai le frein gauche de mon vélo,
oui,
qui grince quand je freine, quand j'appuie dessus, alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà, mais j'ai roulé avec mon vélo hier, figure-toi, et ça grinçait moins, quasiment plus du tout. Donc,
c'est psychologique peut-être.
C'est psychosomatique, je pense que voilà.
Bah alors c'est bien quand ça fait du bruit, déjà, si t'as pas de sonnette, ça peut servir de sonnette, le frein. Et non, mais n'hésite pas à passer à l'atelier, faudra sûrement changer les patins de frein, c'est pas grand-chose. Et puis il y aura un technicien ou une technicienne qui sera là pour te montrer comment faire.
Mais merci beaucoup du conseil.
Bah de rien.
Elle n'osait pas poser la question.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Vous avez parlé des ateliers couture et réparation d'ordinateurs.
Oui.
Est-ce que ces ateliers sont menés à la ressourcerie ou ils ont eux aussi une maison dédiée comme la maison du vélo ?
Non, on aimerait bien, mais alors tous les ateliers, à part l'atelier vélo, se font à la ressourcerie.
D'accord.
Voilà. Et donc, il y a des salariés pour les ateliers vélo. Par contre, tous les autres ateliers sont tenus par des bénévoles. Donc il faut savoir aussi que si tu viens réparer ton ordinateur, c'est des bénévoles, souvent des étudiants en informatique qui nous filent des coups de main. Donc ça, c'est pareil. Tous les ans, on a besoin de nouveaux bénévoles pour maintenir ces ateliers en forme, parce que nous, l'équipe salariée, on n'a pas le temps pour les tenir. Donc encore merci aux bénévoles. Et voilà, s'il y a des gens qui nous entendent et qui veulent filer un coup de main, ça serait avec grand plaisir.
Et justement, si on a besoin de services à Etu Récup, on fait comment ? Est-ce qu'il faut appeler avant ? Si on veut participer aux ateliers, est-ce qu'il faut réserver ? Ça se passe comment ?
Alors, la plupart des ateliers, les ateliers vélo, vous venez sur les horaires d'ouverture, pas besoin de réserver. Mais on a certains ateliers qui sont où il faut réserver parce que c'est limité en nombre de places. Les ateliers menuiserie ou les ateliers couture. C'est en fonction du nombre de machines et en fonction de la place qu'on a dans l'atelier. Donc oui, il faut réserver.
Merci beaucoup Benjamin, on vous souhaite
rien.
Une bonne nouvelle saison avec
merci.
Plein de dons et plein de réparations.
J'espère, merci.
Merci
au
à
revoir.
Vous.
Salut.
Café Campus, votre mag étudiant.
On reçoit maintenant Melvin au micro de Radio Campus, toujours sur la tournée des associations du campus de Talence pour ce Café Campus un peu spécial. Salut Melvin.
Salut.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Ça va bien, journée très jolie, vraiment il y a plein d'étudiants qui viennent, donc c'est vraiment très sympa.
Et ben c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, hein. On a deux stands côte à côte, il y a plein de monde qui vient voir l'assaut de chimie. Mais du coup l'assaut de chimie, qu'est-ce que c'est ?
Ben, en fait l'assaut de chimie, pour faire simple, c'est l'association qui représente les étudiants en licence et master de chimie et de physique chimie en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux parcours à l'université de Bordeaux qui incluent la chimie, la licence chimie et la licence physique chimie.
Donc là on est en plein dans l'association de filières.
Ouais, exactement.
Et qu'est-ce que vous leur proposez à ces étudiants alors ?
Alors aux étudiants on leur propose notamment, parce qu'en fait on a deux styles d'événements principaux, ceux vraiment qui sont à destination pour les étudiants de chimie et physique chimie. Et ceux qui sont à destination plus grand public, tous nos adhérents. Parce qu'il faut savoir que dans notre association, on n'a pas que des gens en chimie. ou physique chimie. Donc ce qu'on va faire plutôt pour quand ça va concerner la filière, on va faire plutôt de l'OIP, donc l'orientation on va faire. Par exemple, on va présenter des laboratoires, par exemple pour des stages, on va présenter qu'est-ce qu'on fait après une licence de chimie, après un master de chimie. Quels sont les débouchés, voilà. On fait aussi des conférences scientifiques. Là, prochainement, on va faire une conférence de la chimie dans le vin. On va voir quels sont les liens entre la chimie, qu'on peut retrouver partout, et le vin, quels sont les arômes, les molécules qui vont être plus aromatiques, par exemple, d'où leur nom, etc.
Et toi, tu t'es dans quelle filière ?
Moi, je suis en chimie.
Et pourquoi la chimie, justement ?
Pour moi ou par rapport en règle générale ?
Non, pour toi.
Pour moi, la chimie, c'était un hasard. À la base, j'étais venu pour faire des maths à l'université de Bordeaux. Sauf que ça m'a saoulé et je me suis réorienté vers la chimie.
Est-ce que tu as des conseils pour des étudiants et des étudiantes qui souhaitent se lancer dans ce genre d'études ?
Je suis pas forcément un hyper étudiant hyper exemplaire, on va dire, parce que moi je suis plutôt en mode j'aime bien faire plein de trucs à côté. Mais sinon.
Ce qui est bien aussi dans la vie voilà. D'un étudiant.
Après, il faut quand même. Faut pas décrocher vraiment, même s'il y a des moments c'est un peu ennuyeux, ou ça peut être un peu ennuyeux. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière, donc c'est plus dans ce sens-là où ça peut être ennuyeux. C'est vraiment assez divers, donc faut vraiment pas lâcher ce genre de matière, parce que sinon, après, on peut vite décrocher la licence.
Mais en fait, le fait d'être dans une association, de venir sur le campus pour cette association aussi, ça permet de rester dans un monde universitaire et d'être peut-être encore plus assidu pour les cours, etc. Ou alors, il peut y avoir aussi l'effet inverse,
voilà.
Où on s'engage un petit peu trop dans l'association et on met les études de côté. Alors, ouais. Quel est ton cas, toi, et comment il faut faire pour s'organiser ?
Moi, mon cas personnel, c'est que l'association, en vrai, j'ai investi beaucoup de temps. Faut savoir que dans l'association, moi, je suis le secrétaire de l'asso, là, en ce moment, donc j'ai vraiment investi beaucoup, beaucoup de temps. C'est un peu en pâtie au début sur mes études, mais là ça va mieux, j'ai essayé d'équilibrer un peu mieux.
T'arrives à trouver le bon dosage.
Ouais, là en fait j'ai relâché un peu l'asso, je me mettais un peu de pression et tout, et donc du coup j'ai relâché et ça va mieux quoi, c'est plus tranquille. Mais c'est vrai que souvent quand on veut faire de l'associatif, souvent étudiante et tout, souvent on a tendance à en faire un peu trop. Et il faut vraiment pas tomber dans ce vice-là, je pense.
Pour garder un œil sur vos actualités, ce que vous préparez ou les prochaines conférences, comment on fait ?
Alors, c'est simple. Y a deux façons. Il y en a une publique et une un peu plus privée. La première, c'est par notre Instagram, Association Chimie Bordeaux. Et après, la deuxième, c'est quand vous adhérez, en fait, vous donnez votre mail. On crée une mailing, en fait, et on envoie tous nos événements qu'on fait par mail.
L'adhésion, elle est de combien ?
De 3 euros. On est la moins chère du campus.
Ah bah comme, et tu récupes ?
Et tu récupes aussi 3 euros. Hein.
Et tu récupes, c'est ouais. Prix libre.
C'est 3 euros.
C'est 3 euros cette année ?
Ouais. Vous faites de la concurrence.
Il y a
avec
de la concurrence, hein.
Mais c'est pas les mêmes activités.
C'est pas les mêmes activités, effectivement. Vas-y, ils vont pas faire des week-end ski comme on peut faire nous.
Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ?
Non, moi ça va. Je pense que j'ai bien présenté.
En tout cas, vous êtes ouvert aux étudiants, aux étudiantes en ce début d'année et on peut venir vous voir au stand. Est-ce que vous avez un local ?
Oui, on a un local. On a le local 35 au A21, au rez-de-chaussée, là où il y a la plupart des associations. Et après, on fait des stands tous les jours sur le A22, sur l'esplanade du A22.
Merci Melvin.
Mais de rien.
Et bonne continuation à tout le monde.
Bonne continuation à vous aussi. Au revoir.
Et à présent, on reçoit l'association d'astronomie AUA avec Hugo. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui ?
Très bien. Écoutez, il fait beau, tout va bien.
Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement c'est quoi l'association d'astronomie ?
Alors, l'association universitaire d'astronomie, c'est une association qui est ouverte à tous, donc étudiants comme personnel d'université ou personnes extérieures à l'université. On cherche d'abord à réunir large tous ceux qui sont passionnés d'astronomie. Et donc c'est une association qui propose tout au long de l'année des conférences avec des enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine, qui viennent présenter de manière accessible leurs résultats, qu'ils soient récents ou pas. Et on propose aussi des observations du ciel durant toutes les deux semaines avec une autre association qui est sur Bègle, qui s'appelle l'ABERA, qui a un peu plus de matériel. Donc là, on sort de Bordeaux et on va observer le ciel régulièrement.
Alors c'est quoi les bonnes conditions pour bien observer le ciel?
Ah, alors les bonnes conditions pour observer le ciel, c'est déjà pas de nuages, parce que du coup on prévoit nos sorties, mais on est toujours soumis à la météo bien sûr, et surtout ne pas avoir trop d'éclairage public, parce que en fait ça vient polluer le ciel, et donc les étoiles qui sont de faible luminosité, elles viennent être noyées dans toute cette luminosité là qui vient de la ville. Donc on essaie de s'écarter un petit peu et d'aller en zone rurale pour avoir moins de cette luminosité. Voilà, savoir aussi que si on veut observer des objets plutôt du ciel profond, donc des galaxies, etc., on va être bloqué par la Lune aussi, par exemple, qui va venir faire comme projecteur dans le ciel.
Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette association? Qu'est-ce qui te passionne dans l'astronomie?
Alors, moi, j'aime beaucoup ces objets du ciel profond dont j'ai parlé, parce que je trouve qu'esthétiquement, ils sont magnifiques. Et j'ai toujours été passionné de physique aussi, et donc c'est toujours un milieu qui m'a intéressé. Puis j'ai été bercé par Star Wars, évidemment, donc tout de suite, on est tout de suite attiré vers ce milieu-là.
Lors de ces sorties, vous procurez, vous prêtez le matériel pour voir les étoiles, évidemment.
C'est ça. En fait, il est mis à disposition. On a des membres qui s'y connaissent bien et qui viennent expliquer aussi ce qu'on observe comme objet, ce qui est pointé. Et en général, on essaie de sortir 3-4 télescopes comme on peut. Là, par exemple, aujourd'hui, on propose une observation solaire sur notre stand. Et on a un télescope qui nous a été prêté par le laboratoire d'astrophysique.
Du coup, on a juste besoin de télescopes pour bien observer le ciel, ou il y a besoin d'autres matériels?
On peut carrément bien observer le ciel avec des jumelles, en fait. Rien qu'avec des jumelles, ça suffit de pointer des jumelles vers le ciel. On peut déjà voir la Lune de manière assez impressionnante. Et ensuite, un petit télescope, ça permet déjà d'aller gratouiller certaines planètes. Jupiter se voit très bien en été, par exemple.
Comment on gratouille une planète, alors?
Non, c'est parce que les planètes donc, sont des objets qui sont en fait finalement petits dans l'univers, mais qui peuvent s'observer assez bien. Les planètes qui nous sont proches s'observent bien. Et donc, avec un petit télescope, on va pouvoir voir Jupiter et ses quatre lunes galiléennes qui sont à côté, qu'on distingue bien. Mais ça va être plus compliqué d'aller voir Saturne, en fait, qui est presque deux fois plus loin.
Est-ce que c'est pas frustrant d'être passionné d'astronomie parce qu'on n'ira jamais
Alors, ça peut être frustrant parce qu'effectivement, on voit jamais vraiment les objets qu'on regarde correctement. Mais on arrive quand même à avoir de belles images. Ensuite, il faut vraiment, ça demande de la patience. Il faut vraiment s'y intéresser à fond. Et donc, pour faire de jolies photos, on a une membre qui prend des photos donc avec un temps de pose de 30 secondes, et elle en prend 280 par exemple pour avoir une photo correcte, quoi. Donc ça demande de la patience, mais le résultat est toujours époustouflant.
Qu'est-ce qu'on observe le plus lors de ces sorties? Est-ce que c'est des planètes en particulier, des étoiles, des constellations?
Alors on essaie de faire pas mal d'observations planétaires parce qu'on a forcément plus de détails, mais on va aussi essayer d'observer certaines formations stellaires, donc les Pléiades par exemple, qui sont assez visibles de manière correcte, pareil avec petit matériel, même des jumelles. La Lune, quand c'est jour de Lune, c'est pareil, c'est intéressant à voir, surtout quand la Lune n'est pas éclairée entièrement parce qu'on voit mieux le relief. Voilà, ce genre de choses, c'est assez large.
Alors on le sait, l'univers est immensément vaste. Quand on s'intéresse à l'astronomie, j'imagine qu'on en a d'autant plus conscience. Est-ce que toi, ça change le regard que tu portes sur la vie qu'on mène sur Terre? Est-ce que ça t'aide à avoir une certaine hauteur de vue? Ou à te poser plus de questions que la moyenne?
Ah forcément, on se dit qu'on n'est pas grand-chose en fait dans l'univers. Et d'ailleurs, ça amène à penser à notre climat notamment. Quand vous allez dans le milieu de l'astrophysique, tous les passionnés vont être très sensibles à l'écologie parce qu'on s'aperçoit de la fragilité de notre environnement et de la chance qu'on a de pouvoir avoir une planète habitable. Parce que vraiment, quand on observe autour, il n'y a pas grand-chose de ressemblant. Et donc, on a conscience de cette chance-là et on prend beaucoup de recul sur ça. Et on a beaucoup d'enseignants-chercheurs, par exemple, qui sont militants pour l'écologie. Et voilà, c'est une bonne chose et il faut les écouter.
Alors, vous avez la tête dans les étoiles, mais est-ce que vous avez quand même les pieds sur Terre?
On essaie toujours, parce qu'on sait très bien que on ne pourra pas aller demain faire nos courses sur Mars. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais on est déjà satisfait quand même de voir que y a des missions qui se montent pour aller sur la Lune sous peu. On espère que Thomas Pesquet en fera peut-être partie pour faire notre petit cocorico. Mais on a conscience que tout ça, c'est loin, c'est peu atteignable. Mais on est toujours en admiration devant toutes ces choses.
Et comment on peut rejoindre votre association? Vous avez un local, une cotisation, quelque chose comme ça?
Alors, on n'a pas de local. On peut toujours rejoindre l'association, donc que ce soit en venant nous rencontrer directement sur le stand, On a notre assemblée générale qui se fera aussi le début octobre, le 3 ou le 4 octobre à peu près, qui est public, donc tout le monde peut venir et adhérer à ce moment-là. Sinon, on peut toujours nous contacter par Instagram, AUA-8 Bordeaux, BDX, plutôt. Et voilà, c'est le réseau sur lequel on est le plus actif en ce moment. Après, on a un Discord aussi sur lequel on discute pas mal, mais plutôt entre membres de l'association.
L'adhésion, elle est de combien ?
L'adhésion, elle est de 5 euros. On essaie d'avoir un tarif bas pour que ce soit accessible à tout le monde, en fait.
Donc c'est pas des prix astronomiques, quoi.
Non, ça va.
Pour finir, est-ce que t'as des petites astuces à donner à nos auditeurs pour bien observer les étoiles, tu sais, le B.A.B.A. avant de se lancer, comment faire pour bien reconnaître une constellation? Tu vois, moi, par exemple, je sais juste reconnaître la petite ours et encore. Je sais pas si c'est la grande ours.
Alors, sur YouTube, il y a plein de tutos pour essayer de se repérer dans le ciel, etc., qui sont très bien faits. Le ciel d'été, c'est plus facile parce que il fait moins froid la nuit. Donc, on sort plus longtemps et du coup, on a des ciels qui sont plus sombres et on s'y repère mieux. Après, ce qui est bien, c'est de commencer avec une paire de jumelles dont je parlais tout à l'heure parce que c'est plus accessible. Donc, commencer à regarder un petit peu le ciel avec ça et bien réfléchir avant l'achat d'un télescope en fonction de l'utilisation qu'on veut. On va s'orienter plutôt sur une lunette, sur un trépied qu'on appelle équatorial si on veut faire de l'astrophotographie. Mais si on veut juste faire de l'observation, un télescope type Newton avec une monture Dobson, c'est mieux.
Mais merci beaucoup, Hugo.
Merci à vous.
On finit ce Café Campus rempli à ras-bord avec Chloé et Anthony de l'association Ambigu. Salut à tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Bon, ça va, vous n'avez pas trop faim, pas trop chaud?
On est bien, ça
va. Oh, j'ai un peu faim, vraiment.
L'association Ambigu, il y a une petite ammonite dessus. Je pense qu'on parle de géologie.
C'est ça.
C'est ça, oui.
En fait, on est l'association mêlant biologie et géologie universitaire. Du coup, on fait, nous, majoritairement de la géologie, donc c'est pour ça qu'il y a l'ammonite.
Est-ce que c'est une association de filière pour autant?
Alors, on peut dire que c'est une association de filière, puisque dans notre expérience, la majorité des étudiants sont de géologie. Parce que ça touche quand même tout ce qui est enseignement géologique et tout ce train-là. Mais on est ouvert à tout, en fait. On est ouvert à tout le monde qui peut être curieux, en fait. On est une association de curiosité.
On accueille tout le monde.
C'est-à-dire que la nature est ouverte à tout le monde. Peu importe, en fait, les connaissances. Et les connaissances, du coup, nous, on les apporte potentiellement avec notre expérience et notre filière, du coup.
Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la géologie ?
Moi, c'est l'aspect paléontologie, mais quand on parle de géologie, on parle souvent de roches, mais moi, j'adore les roches et tout ça, et c'est surtout l'aspect paléontologie pour moi.
Alors pour moi, du coup, c'est plus l'aspect tectonique, formation des continents, etc. On vit dans des continents qui ont toujours bougé, et c'est exceptionnel de voir qu'en 3 milliards d'années, là où on était clairement à l'opposé, on était sur le pôle sud. Et ça, c'est exceptionnel, et de voir que les montagnes du Massif central, ça a peut-être 400, 500 millions d'années, et qu'on marche sur des roches qui sont exceptionnelles, à une échelle de temps en fait, où les hommes ils vivent 100 ans, et encore un siècle. Là, on parle de millions d'années. Donc c'est ça la démarche où c'est plus grand que nous et il faut aussi respecter cette démarche-là.
Au sein de l'association, vous proposez quelles activités culturelles et scientifiques ?
On propose beaucoup de sorties géologiques du coup dans différents coins, Pays Basque, spéléologie, on fait aussi de la spéléologie à La Verna, c'est dans le sud-ouest. Qu'est-ce que j'ai oublié, Anthony ?
On fait tout ce qui est conférences, retour de mission de nos enseignants-chercheurs. On a ce privilège d'être une petite niche, une petite unité de formation. Donc on connaît tout le monde, tous les profs, tous les enseignants, et eux nous connaissent en fait. Donc du coup, on peut se permettre du coup d'avoir des conférences qui sont ouvertes au grand public, mais inédites, carrément insolites, parce que c'est des conférences où on leur dit, on va dans leur bureau, on leur dit clairement, ça serait bien de refaire une conférence sur votre retour de mission aux Comores. Et ils disent « Ok, voilà ». Donc on fait tout ça, donc conférences, des soirées, un peu comme tout le monde. Hein, voilà. Il faut bien se détendre à un moment donné. Hein.
Et on a de la chance d'avoir un partenariat avec une association de vieux géologues, comme on dit, qui s'appelle Capter, avec qui on fait des géobars. En fait, c'est, du coup, on a un thème particulier et on débat tous ensemble dessus et on propose ça aussi.
Donc des débats autour de questions qui touchent la géologie, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Par exemple, les volcans, et on débat, eux sont professionnels du volcanisme, par exemple, et nous, on est étudiants et on parle de ce que nous, on sait, et eux apportent leurs connaissances dessus.
C'est quoi un vieux géologue alors ?
C'est un retraité.
Ouais. Un vieux géologue, c'est un géologue qui arrive avec une valise et qui dit j'arrive avec de la ressource pédagogique, et qui ouvre sa valise et il arrive avec deux bouteilles de rouge. Ça, c'est un vieux géologue.
Et la différence avec un jeune géologue ?
On tient moins l'alcool. Non, avec les jeunes géologues, eux, ils ont tellement d'expérience. Ils ont un savoir, c'est une bibliothèque vivante. Il y en a qui ont travaillé chez Total. Bon, on peut dire bouh, ils ont travaillé chez Total. Mais à la rigueur, dans leur milieu, c'était naturel. C'était la branche qui embauchait le plus. Et ils savent des choses. Ils savent des choses, et en les sachant, ils peuvent essayer de réduire et nous dire après, nous, on sait ça. Total agit comme ça. Et du coup, nous, en futur, il y a des branches qui s'offrent d'écologie, en environnement, pour essayer de limiter tout ça.
De sensibiliser, oui.
Ouais, de sensibiliser. Ouais.
Quand on est fan de géologie, qu'on pense géologie, tous les jours quand on marche sur le sol ou quand on se rend sur, dans un lieu particulier, on pense géologie, quoi, tout le temps.
On peut penser géologie tout le temps.
On vit géologie.
On vit géologie, on dort géologie. Non, quand on va dire que la géologie...
Vous creusez tout le temps, quoi.
C'est ça.
Oui, en quelque sorte. Non, voilà. En général, non. La géologie est partout. On est entouré de platanes, par exemple. Il y a un type de terre derrière qui permet tout ça. Donc, on ne voit pas tout l'aspect caillou, souvent. La géologie, c'est les cailloux, mais il y a énormément de branches. On a des conférences sur ça. Ça va de la petite pierre à l'étude de la cristallographie minime des cristaux. Jusqu'à la géotechnie, à la construction d'autoroutes.
Tout à l'heure, vous parliez de sorties dans le Pays Basque. Est-ce que vous avez des endroits privilégiés dans lesquels faire de l'observation géologique et pourquoi ?
Alors, avec l'association, on ira du côté d'Espelette et d'Ainhoa. Mais en fait, on a fait des camps de terrain du coup, avec nos cours l'année dernière. Et on est parti du côté de la Pointe-Sainte-Barbe, où c'est assez exceptionnel géologiquement parlant.
On a été du côté de la Reims, des Aubonnes, du Pic du Midi d'Ossau. Pour l'anecdote, c'est un ancien volcan, Pic du Midi d'Ossau. Voilà.
Les Alpes aussi, c'est assez, ouais, assez marquant.
Les Alpes, c'est quand on a toute la connaissance derrière, c'est exceptionnel. Mais il faut aller dans la curiosité. Il faut arriver avec une volonté d'apprendre quelque chose qui est unique.
Et comment on peut faire pour vous contacter, du coup ?
Alors, on est disponible tous les midis au local 33 du A21. Et sinon, on reste sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est asso.ambigu. Et par mail, association.ambigu@gmail.com.
Et sur Facebook, c'est asso.ambigu. Voilà.
Est-ce qu'il y a une adhésion à payer ?
Alors oui, cette année, on a essayé de faire un petit coup contre l'inflation. Et on a fait baisser nos adhésions pour permettre aux étudiants du coup de profiter un peu mieux de la vie en général. L'année dernière, on avait un tarif à 5€ et 8€. Cette année, on a baissé à 4 et 6€. 2€, on pense que c'est rien, mais des fois, pour un étudiant, c'est 2 paquets de pâtes. Et on essaye du coup, on est des étudiants et on voit la difficulté de ça. Et on essaye du coup d'être intégré aussi dans la vie de campus, plus que d'autres assos peut-être. Et voilà, on essaie d'avoir des coups de poing sur ça. Et voilà.
Anthony et Chloé, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs et les curieux qui nous écoutent ?
Venez y adhérer.
C'est venez
ça. Ambigu.
Venez découvrir la nature en général à travers un œil nouveau.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Campus. Et on vous souhaite une bonne continuation, une bonne rentrée.
Merci
à vous.